Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Bienvenue dans Tabloïd, une émission à mi-chemin entre les enquêtes impossibles de Pierre Belmar et Nostalgique. Je suis Caroline Jacques, a.k.a. Captain Paillette. Aujourd'hui, nous enfilons notre long imperméable et nos lunettes à caméra intégrées pour une enquête sur les petites manigances de la CIA en matière de musique. En ce début d'année mouvementée, où les théories conspirationnistes fusent de partout, j'ai décidé de rester dans l'ambiance et de vous offrir un épisode spécial guerre froide. Alors pourquoi ? Parce que personnellement, je trouve cette époque fascinante et parce qu'elle a inspiré des milliers de chansons qu'on écoute parfois sans vraiment comprendre les paroles. Mais c'est aussi parce qu'un podcast fantastique est sorti l'année dernière, probablement le meilleur de l'année 2020. Selon moi, c'est une enquête sur une folle rumeur comme quoi Wind of Change de Scorpions aurait été écrite par la CIA. Bon, ça paraît fou dit comme ça, mais je vous rassure, Captain Paillette n'a pas encore rejoint les rangs de QAnon. Et vous n'entendrez que des choses qui ont été étayées par des documents officiels et des journalistes plus sérieux que moi. Alors pour commencer ce voyage déstabilisant dans le monde de l'espionnage, je vous propose une petite piqûre de rappel sur la guerre froide et sur la musique qu'elle a inspirée. Puis on va se relaxer un peu, on parlera de chansons inspirées par la menace d'un conflit nucléaire mondial. Chouette ! Puis on explorera les premiers pas de la toute jeune CIA en matière de soft power, au début du raidissement de la relation US-USSR. On verra notamment comment elle a utilisé le jazz comme arme de propagande. Et enfin, on s'attaquera au fameux dossier Wind of Change. Ah, voilà un programme qui sent bon 2021. Ah, la guerre froide, c'est un temps que je n'ai pu connaître étant né 9 mois avant la chute du mur de Berlin. Mon premier souvenir de politique internationale témoigne bien de l'accalmie dans laquelle j'ai grandi, puisque c'était le fou rire de Boris Yeltsin et de Bill Clinton en 1995. Toute naïve que je suis, j'ignore tout de ce que veut dire cette image pour les adultes autour de moi. Je n'ai aucune idée de la menace qu'avait fait planer sur la planète le concours de zizi entre les deux puissances pendant des décennies. Mais heureusement, quelques années plus tard, le programme d'histoire de Terminal L s'est chargé de tout m'apprendre extensivement, de la coexistence pacifique à la détente en passant par la perestroïka. Au milieu de mes fiches Bristol ultra soignées, m'est venue une révélation de dingue. J'adore la guerre froide! C'est en apprenant les affres de la guerre froide que j'ai enfin compris le but d'apprendre l'histoire. Et c'est d'ailleurs cette fascination pour cette époque qui m'a donné envie d'aller explorer l'Europe centrale à 25 ans et de m'inscrire à mon premier free walking tour comme j'en guide maintenant à Brest. C'était en Pologne et le titre du tour en question, Cracovie communiste. Avec la guide, on prend le train pour le quartier de Nowa Huta, à 15 km de là, et on arrive dans un monde incroyable, une utopie communiste comme il n'en existe que deux au monde. Une cité industrielle construite dès 1948 selon les plans de Staline pour promouvoir les idéaux communistes, une forme d'art réaliste socialiste à ciel ouvert. 20 ans après la chute du mur de Berlin et l'effondrement des illusions, j'ai surtout remarqué les statues des anciennes effigies qui ne sont plus à leur place, mais aussi l'architecture qui devient de plus en plus low cost, à mesure de la perte de vitesse du bloc communiste. On y voit une église construite par Jean-Paul II et ses paroissiens sans aucun soutien public dans une ville ultra-communiste où la religion était proscrite. Mais c'est surtout la visite d'un quartier construit à la fin des années 60 qui m'a le plus étonné. Ici, la construction même des logements est un appel à la délation entre voisins. Et pour accéder au quartier, il faut passer par des entrées anti-chars, avec une petite meurtrière pour pouvoir tirer sur les assaillants. Encore mieux, la ville est construite en étoile pour pouvoir survivre à une attaque nucléaire. Pas sûr que ça aurait vraiment aidé. Mais ce qui m'a marqué dans cette utopie désuète, c'est une vie entière orientée par la menace, celle du KGB, celle des vilains américains et celle d'une guerre nucléaire mondiale. Et ça, c'est quelque chose que j'avais omis de comprendre quand je révisais mes petites fiches Bristol. Avec la doctrine de la destruction mutuelle assurée, si l'un tirait un missile nucléaire, l'autre riposterait aussitôt, entraînant le monde à sa perte. Ce thème apocalyptique, on le retrouve dans des centaines de chansons, comme Enola Gay, d'Orchestral Maneuvers in the Dark, qu'on entend là, et qui raconte les drames de Hiroshima et de Nagasaki. Comme eux, certains choisissent une mélodie joyeuse pour appuyer l'absurdité de la situation, dans lequel quand même l'humain s'auto-annihilerait. Comme Boris Vian par exemple avec la Java des bombes atomiques en 1955, qui dénonce avec humour le passage de la bombe A qui avait détruit les villes japonaises à la bombe H mille fois plus puissante. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Mais aussi Élie et Jacquenot avec l'âge atomique qui, à travers un titre agrémenté de sons laser et de riffs de guitare trafiqués et surtout d'une grosse dose d'ironie, dénonce l'insouciance de la jeunesse face au nucléaire. Et puis, on a Nena avec son 99 Luftballon de 1983, probablement la chanson allemande la plus populaire et la plus funky de tous les temps. Si on se tient à la mélodie, on a envie de sauter partout, de faire la fête en s'enchaînant des Red Bull. Si on fait un peu plus attention aux paroles, c'est une autre histoire. Nena imagine dans cette chanson que 99 ballons de baudruche ont été lâchés dans le ciel et sont identifiés par les forces militaires comme une attaque. Pour neutraliser la menace, les armées des deux blocs sont mobilisées et provoquent une gigantesque explosion destructrice qui dévaste la planète. Waouh, c'est gay! Dans ce début des années 1980 où la guerre froide atteint un point de tension inédit, avec l'élection de Reagan qui décrit l'autre bloc comme l'empire du mal, il y a la peur d'un conflit nucléaire et mondial, mais la jeunesse allemande se sent particulièrement touchée, tant à l'ouest qu'à l'est. Ils sont parfaitement conscients qu'en cas de guerre entre les deux blocs, c'est le territoire allemand qui prendrait. De nombreuses manifestations ont lieu en Allemagne de l'Ouest, où les jeunes s'écrient « Mieux vaut être rouge que mort ». En 1985, c'est Sting qui chante sa crainte d'un affrontement nucléaire dans Russian. Il se demande comment il peut sauver son enfant du jouet mortel d'Oppenheimer, considéré l'inventeur de la bombe atomique américaine. Le chanteur de Newcastle espère que les Russes aiment aussi leurs enfants. I hope the Russians love their children too. Car selon lui, c'est la seule chose qui pourrait sauver le monde d'une guerre nucléaire. Mais voici quelques autres chansons notables inspirées de la guerre froide. Il y a tellement que je dois faire une sélection. Je ne vais même pas effleurer le thème de la guerre du Vietnam qui mériterait un épisode à part entière. À part peut-être 19 de Paul Hardcastle, un titre très informatif où l'on apprend que l'âge moyen du soldat partant à la guerre du Vietnam est de 19 ans. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 Nous avons Heroes de David Bowie en 1977. Écrite alors qu'il réside à Berlin-Ouest, elle décrit deux amants qui s'embrassent près du mur de Berlin. 10 ans plus tard, il la chantera lors d'un concert tout près du mur qui attirera plein de monde côté Est, mais les pauvres ne pourront pas se joindre à la fête car le mur de la honte tient toujours. Et en parlant de murs, justement, comment passer à côté du classique des Pink Floyd, The Wall, un concept album de 1979 qui raconte la descente aux enfers de Pink, un ado rockstar consommé par la vanité et par les illusions du star system, qui cherche désespérément à faire exploser le mur érigé autour de lui par une société répressive. Pas de lien direct donc avec le mur de Berlin, si ce n'est l'énorme concert que Pink Floyd a organisé le 21 juillet 1990, après la chute du mur justement, et dont le coup d'envoi a été donné conjointement par les deux maires de Berlin. C'est beau. Pour compléter le spectacle, un pan de mur tout en briques de polystyrène, de 168 mètres et haut de 25 mètres et détruit en plein concert. Ça, c'est du show. Puis on a The End of the World as We Know It, une chanson de R.E.M. que j'affectionne particulièrement. Écrite à la base sur le sujet de la guerre froide, cette chanson a refait une apparition dans les charts le 16 mars 2020. 33 ans après sa sortie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette date ? Si, mais c'est normal, c'est la veille du premier confinement. Dans la chanson, il dit « C'est la fin du monde comme on le connaît. Je vais passer du temps tout seul. Je vais passer du temps tout seul. » Et je me sens bien. Bizarrement, ça collait bien avec l'humeur du moment. Et des millions de gens, dont votre humble podcasteuse, se sont rués sur Spotify pour écouter ce titre qui évoque entre autres Léonid Brechnev, dans des paroles quand même plutôt cryptiques qui ont fait le succès du groupe. Le rythme de cette dernière chanson en rappelle une autre, une de Billy Joel en 1989, que les fans de The Office reconnaîtront sûrement. We didn't start the fire. Cette chanson résume toute la guerre froide uniquement avec des mots-clés soigneusement arrangés. La pilule, Oshimine, Nixon est de retour, la lune, Woodstock, Watergate et le punk rock. Reagan, la Palestine, terreur sur les avions, Ayatollah en Iran, Russes en Afghanistan. We didn't start the fire, it was always burning. Une chanson qu'on devrait apprendre au bac, tant elle est informative. Et d'ailleurs, en parlant de bac, vous savez qu'on peut réviser ses cours en rappant maintenant ? Je vous laisse un petit extrait de L'entrée du monde dans la guerre froide par Onzik pour un petit rappel du cours d'histoire que vous avez sûrement oublié il y a bien longtemps. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde s'organise. Deux énormes puissances, URSS, États-Unis. Totalitarisme, communisme, démocratie libérale. Bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest, c'est la guerre froide. Quand on pense à la guerre froide, on pense automatiquement à la course aux armements, aux rideaux de fer, aux tactiques de dissuasion nucléaire et à la conquête spatiale, à un autre thème prépondérant dans la musique. Si aucun affrontement direct n'a lieu du fait de l'équilibre de la terreur, les deux puissances luttent sur des territoires périphériques comme le Vietnam, le Nicaragua ou l'Afghanistan, comme dénoncé dans la chanson des Clash au Washington Bullet en 1981. Extrait du triple album Sandinista, ce titre dénonce entre autres le scandale de la baie des cochons à Cuba, l'assassinat de Salvador Allende au Chili, l'incursion des Russes en Afghanistan et le traitement des moines tibétains par la Chine. Non. Mais la lutte que se mènent les deux blocs est surtout idéologique avant tout. En l'absence de conflits ouverts, la guerre froide est vite devenue une guerre d'images, de propagande, de désinformation et de pression diplomatique. Aux États-Unis, le soft power s'impose très vite comme concept clé des relations internationales. Et surtout après l'élection d'Eisenhower en 1953. Dès lors, la musique est souvent instrumentalisée pour séduire l'autre camp, en leur faisant miroiter le rêve américain et les merveilles du capitalisme, ils espèrent rallier à leur cause les brebis galeuses du bloc soviétique, et pour attirer quelques nations indécises dans leur bloc. Mais les Russes ne sont pas gentils. Ils n'arrêtent pas de dire que l'Amérique n'a pas de culture propre à elle, alors que eux, ils ont la crème des intellectuels et des ballerines. Ils les font passer pour des beaufs un peu, soyons honnêtes. La CIA conçoit alors un plan de guerre culturelle de longue haleine, piloté par le Congress for Cultural Freedom, un organisme dirigé par deux dissidents russes. Elle subventionne grassement toute œuvre qui ferait briller le modèle américain en dehors de ses frontières. Et pendant un moment, ils pensent même sérieusement à parachuter des livres traduits sur la populace russe avec des avions. Il est bon de savoir que dans les premiers temps, la CIA était remplie d'intellos fraîchement sortis des meilleures universités du pays. Alors que le FBI de J. Edgar Hoover était plus peuplé d'anciens militaires, des brutes, d'où la différence dans les techniques employées et leur subtilité. Le chef de la contre-intelligence de la CIA, James Jesus Wisner, a longuement considéré être poète avant de tomber dans le côté sombre de la force et de, parfois, torturer des gens. Et pour lui, pas question d'envoyer le ballet de New York devant l'élite moscovite. Il faut que nos premières présentations au public soviétique touchent la masse, dit-il. Et selon lui, leur meilleure carte à jouer est un son qui vient du fin fond de la Louisiane, le jazz. Et pourquoi le jazz ? Eh bien, vous voyez, le 1er décembre 1955, une certaine Rosa Parks refuse de se déplacer dans un bus et ainsi de se conformer aux lois ségrégationnistes. En faisant ça, elle déclenche une vague de protestations sans précédent. Les images choquantes défilent en boucle sur les télés du monde entier et entache fortement la belle image de la démocratie à l'américaine, et surtout dans les pays africains en pleine décolonisation. Pire, l'Amérique est raillée par les soviétiques pour ses inégalités raciales. Plus que jamais, le pays d'Oncle Sam a besoin du jazz pour redorer son blason. Et le jazz, c'est magique. Il n'y a pas de ségrégation, les musiciens noirs jouent avec les musiciens blancs dans la joie et la bonne humeur. En plus, les Européens adorent le jazz. Cette musique libre et innovante s'est propagée comme feu de forêt durant les deux guerres, avec l'aide des soldats américains en permission. Le jazz connaît son apogée en 1955 avec Duke Ellington, Louis Armstrong et Dizzy Gillespie. Mais aussi l'émission Jazz Hour de Voice America, une radio à destination des soldats américains, mais qui rive beaucoup d'Européens à leur transistor.
This is the Voice of America Jazz Hour.
Le jazz fait un carton et la CIA compte bien en profiter. En 1956, elle commence un programme appelé Ambassadeur du Jazz, pour organiser des tournées internationales avec des stars, pour la plupart noires, telles que Dave Brubeck, Louis Armstrong et Dizzy Gillespie, qui n'étaient pas tous conscients du rôle ambigu qui leur était confié. C'est Gillespie qui s'y colle en premier en 1956. Il fait une tournée phénoménale de 10 semaines qui l'amène en Iran, au Pakistan, en Syrie, en Turquie, en Grèce, en Yougoslavie et en Europe de l'Est, où il est accueilli par des foules qui crient à sa surprise leur solidarité avec la cause noire. Lui qui est censé promouvoir la liberté de l'Amérique dans des pays dits totalitaires, il se sent instrumentalisé par son pays natal qui l'agite devant des foules comme un symbole de réussite, tout en rognant les droits les plus basiques, assez semblables à la maison. Et ça, ça le dérange. Il se sent comme colonisé de l'intérieur. Il n'est pas seul dans ce cas. Trees of green, red roses too. Louis Armstrong, lui, a été en quelque sorte piégé par la CIA. Il voulait organiser un concert au Ghana en mai 1956 de son propre chef, mais pour l'inciter à tourner plus longtemps à l'étranger, les services secrets américains ont pris soin de faire annuler tous ses concerts aux États-Unis. Il rejoint avec réticence le programme des Jazz Ambassadors mais réalise pas moins de 160 concerts à l'étranger, dont un devant le Sphinx en Égypte. Mais l'Afrique en particulier a suivi avec horreur la ségrégation faite contre les Noirs aux États-Unis et n'adhère pas vraiment au message de propagande. De plus, Louis Armstrong, bien conscient de son influence, ne peut se retenir d'évoquer le sujet. Il chante sa mélancolie dans Black and Blue. Mon seul péché est dans ma peau. Qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi black and blue? Louis Armstrong a eu sa vengeance plus tard avec son ami Dave Brubeck et sa femme en participant à une comédie musicale satirique appelée The Real Ambassadors, tirée de leur expérience dans les tournées financées par la CIA. Dans cette chanson qu'on entend là, il se dit le vrai ambassadeur, qu'il arrive mieux à faire oublier les coups d'État ordonnés par les USA et à apaiser les foules que les diplomates, dont c'est le boulot. In my humble way, I'm the USA. Though I represent the government don't represent some policies I'm for. On remarque la phrase « Même si je représente le gouvernement ne représente pas certaines réformes que je soutiens. » Une phrase particulièrement piquante qui est un clin d'œil à la loi de Jim Crow, toujours en application dans le sud du pays. Revenons en 1961. C'est maintenant Nina Simone qui tombera dans le piège. Elle participe à une tournée au Nigeria organisée et sponsorisée par la AMZAC, la Société américaine de culture africaine, qui visait à faire connaître l'héritage africain des communautés afro-américaines. Elle est envoyée à Lagos pour un concert grandiose avec une délégation d'artistes afro-américains excités de renouer le lien avec l'Afrique. Mais ce que la pianiste prodige ne sait pas, c'est que l'AMZAC était secrètement financée par la CIA. Ce qui a été révélé en 1967. Et on se doute que ça n'aurait pas plu à Nina Simone d'être instrumentalisée ainsi, elle qui n'a pas vraiment caché son dégoût pour sa patrie. Et surtout pour la loi de Jim Crow, à laquelle elle a dédié un album entier. En 1963, au lendemain des meurtres de Emmett Till et de Medgar Evers dans le Mississippi, et d'une explosion dans une église d'Alabama revendiquée par les suprémacistes blancs, qui a quand même tué 4 petites filles, elle écrit Mississippi Goddamn, sa première chanson sur les civil rights. Alabama m'a tellement énervé, Tennessee m'a empêché de dormir, et tout le monde est au courant pour le Mississippi putain de merde. Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn. Cette chanson fait prendre un virage plus politique à sa carrière. Un virage si vertigineux qu'il la déraille totalement. Quelques années plus tard, déçu par son pays, instable mentalement et avec un mandat d'arrêt sur le dos, elle s'exile à la Barbade, puis au Liberia, puis enfin à Paris, où elle finira sa vie dans les brumes d'alcool. That's just the trouble. même si les tournées avec les Jazz Ambassadors ont rencontré la controverse due à leur hypocrisie face aux inégalités raciales, elles resteront un modèle pérenne pour la CIA en matière de diplomatie culturelle, un plan d'attaque qu'elle ne va pas lâcher de si tôt, puisque en 2011, Washington a envoyé des rappeurs, danseurs et DJ musulmans au Moyen-Orient et en Afrique pour donner des concerts et parler à la presse locale du fait d'être musulman aux États-Unis. Ces tours n'avaient pas seulement pour but de parler de leur intégration, mais selon les organisateurs, de promouvoir la démocratie et encourager la dissidence, écrit-on dans un article d'Al Jazeera. Ah, la diplomatie culturelle, c'est une recette qui fait mouche. Vous êtes sur Radio U et vous écoutez Tabloïd, avec une enquête spéciale guerre froide. Après la construction du mur de Berlin en août 1961, les relations se raidissent et les échanges culturels entre les deux blocs diminuent. Les produits occidentaux sont censurés et peinent à s'immiscer de l'autre côté du rideau de fer. Mais comme on le voit très bien en ce moment à l'heure du couvre-feu et des masques, les interdictions strictes ont tendance à créer un effet inverse chez certaines parties de la population. Au lendemain de la campagne anti-religieuse incitée par Khrouchtchev en 1960, qui entraîne la fermeture de nombreuses paroisses orthodoxes, la religiosité explose dans les pays soviétiques. Le KGB s'inquiète de la hausse de la consommation anti-soviétique de produits de culture religieuse, comme par exemple la Bible, ou alors la comédie musicale Jésus-Christ Superstar qui fait un carton. De plus, les églises baptistes séduisent les jeunes avec un attirail moderne, genre des amplis, une station de radio et tout. Et ils accueillent dans leur paroisse des concerts rock, voire punk rock, qui ne suivent pas vraiment les lignes du parti. Le KGB et le Komsomol, organisme chargé de la jeunesse du parti communiste, décident de fermer plus ou moins les yeux, car ils ont eu une bonne démonstration de l'effet pervers de la prohibition. L'époque Brejnev, de 1964 à 82, est ainsi minée par une sorte de schizophrénie. Censurer ou ne pas censurer, comment contrebalancer l'ouverture du monde avec la lutte contre la servilité devant l'Occident? Ah bah, c'est pas évident. Face aux interdictions des produits occidentaux, un marché noir se développe bien évidemment, pour toutes sortes de biens de consommation et donc aussi pour la musique, le bootlegging, les enregistrements d'œuvres censurées qu'on se passe sous le manteau, fait rage. Le magnétophone, puis plus tard le Walkman, deviennent des outils très pratiques pour dupliquer les copies et enregistrer des chansons qui passent à la radio. On se refile des cassettes de Deep Purple et d'autres groupes de hard rock américains de part et d'autre du rideau de fer. C'est la viralité analogue, ancêtre de notre bon vieux buzz actuel. Et que dire de la radio à l'heure de la guerre froide? Eh bien, très vite, elle a représenté l'option la plus simple pour diffuser des messages et de la musique d'Occident de l'autre côté du rideau de fer. Ainsi, dès 1949, avant même le programme des ambassadeurs du jazz, le Congrès américain crée Radio Free Europe afin de transmettre des informations non censurées à travers les frontières, chez les voisins de la Tchécoslovaquie d'abord, mais plus tard vers la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Iran, le Pakistan, beaucoup de pays. Et en 18 langues différentes.
From Poland, Pravda. From Czechoslovakia, Pravda.
From 76 million people behind the Iron Curtain comes the plea,
give us the truth.
Listen.
Keep broadcasting the truth. Radio Free Europe gives us hope for a better future.
Et vous savez qui la finance, cette station de radio?
Mais si vous le savez,
c'est la bonne vieille CIA.
Incroyable.
En tout cas, officiellement jusqu'à 1971, où elle aurait officiellement arrêté. Mais jusqu'à 1991, la station est constamment soupçonnée d'abriter un nid d'espions. Faut dire que la radio emploie de nombreux réfugiés des pays de l'Est et les agents doubles sont légion à cette époque-là. Radio Free Europe et sa jumelle Radio Liberty deviennent les bêtes noires des services secrets d'Europe de l'Est. De 1980 à 1991, elles sont les cibles de tentatives de brouillage de signal, d'attentats à la bombe et de bons vieux assassinats à la russe avec des parapluies à pointe empoisonnée. C'est classe.
Assassinat en plein Londres, dans le plus pur style des romans d'Agatha Christie. La victime, eh bien, c'est un écrivain dissident bulgare dont les chroniques à la BBC étaient très critiques à l'égard du régime bulgare et de ses dirigeants. Pour l'éliminer, le plus discrètement possible, il n'aura fallu qu'un simple parapluie, une seringue empoisonnée y était cachée, et puis en plus le hasard voulu d'une bousculade. La suite avec Claude Guénière.
Après la chute de l'URSS, le budget de la station a fortement diminué. Mais il est bon de savoir qu'elle est toujours en activité de nos jours, toujours financée par le gouvernement américain, et qu'elle n'a pas changé de mission. Dans sa description sur YouTube, on lit « Nous fournissons des informations objectives à des pays où la liberté de la presse est bannie par le gouvernement ou pas totalement établie. » Elle a récemment relancé sa version roumaine, bulgare et hongroise, et elle est le sujet d'âpres combats entre les clans trumpistes et bidenistes en ce moment même. Mais puisqu'on vous dit que la guerre froide s'est terminée en 1991... Et d'ailleurs, en parlant de fin de guerre froide, on dit qu'une certaine chanson l'aurait précipitée. Mais laquelle ? Nous sommes maintenant en 1990. Le mur de Berlin vient de tomber sous les yeux bienveillants d'un David Hasselhoff en veste à électrodes lumineuses. L'Union soviétique est sur le point de se déchiqueter et un groupe de heavy metal issu d'Allemagne de l'Ouest nous offre l'hymne de cette révolution pacifique qui restera un des titres les plus vendus au monde à ce jour. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'année dernière est sorti un podcast qui s'appelle Wind of Change. Une enquête incroyable en 8 épisodes par le journaliste réputé Patrick Radenkiff sur une rumeur qu'il tient d'une source interne à la CIA. La chanson Wind of Change des Scorpions aurait été écrite par la CIA afin d'accélérer la chute de l'URSS. Bon, cette rumeur prête à sourire. C'est sûr que ça paraît totalement absurde à prime abord, mais après avoir vu ce que l'Agence centrale de l'information est capable de faire avec Armstrong ou avec Nina Simone, ça ne paraît plus si fou que ça. Si le journaliste ne peut pas vraiment confirmer la véracité de cette rumeur, il a les arguments pour nous convaincre. Il y interview d'anciens espions, des rockers, des fans ukrainiens et même le chanteur des Scorpions, Klaus Meine, auteur officiel de la chanson Phénomène. Alors si vous comprenez bien la langue de Shakespeare, je vous conseille fortement d'écouter ce podcast, rien que pour ce qu'on apprend de la guerre froide. Vraiment, c'est fascinant. Et c'est ce podcast qui a inspiré Tabloïd, après tout, alors... Tentez le coup. Alors voici la version officielle des événements. La chanson aurait été écrite juste après un énorme concert à Moscou en 1988, le Moscow Music Peace Festival. auquel avaient participé des groupes de hard rock américains tels que Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi. Et les Scorpions, seul groupe européen à l'affiche. Inspiré par la liesse qu'il a ressentie ce soir-là à Moscou, Klaus Meine compose le soir même Wind of Change.
Beaucoup de jeunes nous ont dit « Le temps de la guerre froide, bientôt fini ». C'était une ambiance incroyable. Nous sommes rentrés chez nous avec l'impression d'avoir été témoins du changement du monde.
Je suis les Moscovites, jusqu'au parc Gorki, en écoutant le vent du changement. Maintenant, voici les points qui pourraient semer le doute dans nos petites cervelles. Numéro 1. Jusqu'alors, Klaus Meine n'avait jamais écrit, encore moins composé de chansons pour le groupe. C'était le bassiste qui s'en chargeait. Il aurait écrit toutes les paroles et même composé le sifflement au début, tout seul. Numéro 2. La chanson a été traduite en russe. Ce qui était inhabituel pour un groupe allemand à l'époque. Allemand de l'Ouest en plus. Et en parlant de groupe allemand, sachez que Rasputin de Bonnem et Moscow de Genghis Khan n'ont pas été traduites en russe non plus. Et donc la dimension satirique de ces deux chansons fantastiques est totalement passée au-dessus de la tête des soviets. Bon, elles ont été censurées à la télé parce qu'elles venaient du bloc occidental, mais ont connu un grand succès populaire malgré tout. Numéro 3. Il y a des chances que le concert à Moscou ait été organisé par la CIA. Le manager des groupes présents, un certain Doc McGee, s'était fait une petite fortune dans le transport de drogue avant de se lancer dans la musique. En 1987, il est arrêté pour sa participation à un deal énorme avec les Colombiens, impliquant également Manuel Noriega, ancien agent de la CIA, devenu dictateur du Panama, trafiquant de drogue et ennemi juré de l'Amérique. Alors, petite parenthèse musicale sur Manuel Noriega. Au moment de son arrestation à Noël 1989, l'armée américaine a voulu le forcer à sortir de l'ambassade du Vatican dans laquelle il s'était retranché. Et alors, ils ont utilisé une technique insolite mais qui a été réutilisée depuis. Ils ont joué du hard rock très fort non-stop pendant 3 jours à travers les fenêtres du palace. Une playlist spéciale avait même été concoctée pour torturer le dictateur fan d'opéra avec Guns N' Roses, les Clash, Van Halen et même U2. Ah, les Américains. Et revenons du coup à notre Doc McGee. Alors, tous les gens impliqués de près ou de loin dans le deal du siècle ont été arrêtés et ont reçu une sentence plutôt sévère. Tous à part Doc McGee, qui s'en sort sans rien. On peut donc supposer qu'il y a eu un accord de signé, possiblement avec la CIA, pour un échange de bons procédés. Et le voilà, un an plus tard, en train d'organiser un concert immense en Russie, soi-disant de son propre chef, avec les groupes de hard rock qu'il manage, des groupes hyper populaires dans le bloc de l'Est. Alors même si Doc McGee affirme le contraire, on a du mal à croire que la CIA n'ait rien à voir avec tout ça. Si le podcast n'arrive pas à répondre formellement à la question qu'il pose, il a rencontré un succès phénoménal, si bien que Klaus Meine a dû enchaîner les interviews pour tordre le cou à cette folle rumeur. Peut-être que le succès de ce podcast est dû à l'époque dans laquelle on vit, marqué par par les fake news, les idées conspirationnistes et une confiance envers les institutions et les médias en chute libre. On se réveille, on prend notre téléphone, on fait défiler les gros titres, des vidéos et des tweets, et on ne sait plus trop bien comment démêler le vrai du faux. Les bots russes, les arnaqueurs, les trolls sont légion sur Internet. Et du coup, l'idée que la CIA ait passé du temps à écrire un classique du répertoire rock pour faire tomber son rival fait sourire. On pourrait se dire que ce genre de diplomatie culturelle n'a plus d'impact dans un monde où la musique circule librement sur Internet. Mais jetons un œil du côté de Séoul pour avoir un exemple plus récent. On peut arguer que la K-pop actuelle est une forme de soft power à la coréenne pour montrer au nord communiste la supériorité du sud capitaliste. Jusqu'en 2018, elle a été employée comme outil pour déstabiliser le voisin nord-coréen. Elle a été diffusée sur d'immenses enceintes à différents points de la zone démilitarisée entre les deux pays. La bonne vieille technique à la Noriega, quoi. Plusieurs transfuges ont d'ailleurs reconnu que la musique avait joué un rôle majeur dans le choix de fuir leur pays. Ça paraît fou de prendre une décision sur un tel critère, mais ça ne m'étonne pas tant que ça. Finalement, moi aussi, j'ai quitté ma patrie à l'âge de 20 ans, attiré par la musique de la perfide Albion. Ou alors, ai-je été repoussé par la soupe française que j'entendais à la radio ? Ça, c'est un tout autre débat. En tout cas, une chose est claire, on nous a menti. Au vu des news actuelles, la guerre froide ne semble pas tout à fait finie. Au lendemain de la prise du Capitole par les Trumpistes, la diplomatie russe peine à cacher sa joie. La porte-parole déclare « Le système électoral des États-Unis est archaïque. Il crée des opportunités pour de nombreuses violations et les médias américains sont devenus un instrument de lutte politique. » Venant d'un pays qui a pris l'habitude d'empoisonner leurs opposants, d'interférer dans les élections des autres pays au moyen de bots et de pages Facebook obscures, c'est fort. Ça me rappelle une douce mélodie venant de la Sibérie. Cette émission est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres auparavant sur le site de Radio U, ainsi que la playlist des chansons écoutées et quelques liens intéressants pour approfondir le sujet. Encore une fois, merci pour votre attention, j'espère que vous avez appris plein de choses. Mais souvenez-vous que l'important, ce n'est pas de retenir la totalité des informations que je vous ai crachées là. Si vous retenez juste une ou deux pépites d'infos, moi j'ai fait ma mission. C'est promis, je reviendrai avec un thème plus léger la prochaine fois. Et pour finir dans la bonne humeur, écoutons Moscow de Genghis Khan. Alors, s'il vous plaît, allez voir la vidéo sur YouTube, elle sera sur la fiche du podcast. Elle est tout simplement incroyable. Et promis, si on se refait confiner, j'apprendrai la courée par cœur, je la répéterai tous les jours et je la ferai place de la liberté quand on sera libre. Voilà. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur les ondes de Radio U. Radio U.
Ladies, isn't that glass is clear? Doch, in Keller ist noch mehr. Ha, 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 ha.